d'accord et restons zen.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Je vous emmerde, je rentre à ma maison.
Tu me prends le cœur.
Ça, c'est un couteau.
Tu peux lui faire bobo.
Tu aimes les films sur les gladiateurs?
That's what she said.
Yippie-ki-yay, pauvre con.
Considère ça comme un divorce.
Rambo, c'est une pédale.
Engagement. Et bonjour à tous, vous êtes dans le podcast Les Bières Narratives. Je suis avec Greg alias The Beer Lantern qui est en face de moi.
Bijure.
Je suis avec Brice alias notre technicien taciturne de l'extrême et moi j'arrive à le dire sans bégayer, pas lui.
Ça c'est beau.
Bonjour Brice.
Bonjour.
Et moi c'est Eric des Arts Narratifs, un blog qui cause de tout et de n'importe quoi, mais en général qui raconte une histoire. Et peut-être qu'un jour je raconterai un truc sur un duo d'enquêteurs infiltrés dans le monde très civilisé des drag queens où le champagne coulerait à flot, qui sait. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas.
Ok.
Voilà. Et maintenant que l'on s'est présenté, et car c'est peut-être le premier épisode de quelqu'un, mais qu'est-ce que vous foutez là, bande de fous. On vous rappelle quand même le concept du podcast. Avant même l'essor de la bière artisanale en France, Greg a lancé son site The Beer Lantern il y a une douzaine d'années, je crois.
Ouais, c'est ça, une douzaine d'années.
Voilà, pour causer de sa passion. De mon côté, de manière bien plus confidentielle et plus homéopathique, je postais des articles de temps en temps sur mon site des arts narratifs.
Homéopathique.
Voilà, je pense. Enfin, je sais pas si c'est homéopathique ou si c'est anémique à ce niveau-là, mais voilà. Sur des films, des séries, des bandes dessinées.
Merde, attends.
Donc voilà. Et un jour, on a fait un podcast qui mixe c'est nos deux passions. Parce que bosser dans la bière n'empêche pas de voir des films, et parce que lire une BD ou mater une série n'empêche pas d'aimer les bonnes bières. Et donc l'idée, c'est de trouver une bière craft avec une étiquette ou un nom, nous rappelant une œuvre de pop culture ou un auteur. On la goûte devant un micro, enfin celui, chacun le sien, hein, on reste comme ça, tranquille. Et on essaie de vous faire découvrir l'œuvre ou de vous apporter quelques anecdotes dessus pendant une petite heure et demie suivant les fois.
Très bien résumé. Ouais, désolé, en fait, c'est en voulant faire une manip, je sais plus si je t'avais muté ou j'avais coupé ton casque. Du coup, j'ai dit merde, il doit parler dans le vide.
Alors, je n'ai pas eu de coupure dans mon casque.
Ah, tu as parlé dans le vide.
Oui, tu as dû parler dans
l'habitude.
Le vide. Donc voilà, non, on est bon, tout est bon. Tout est bon. Donc, je vais présenter les bières.
Un cochon
Oui. Ah. Tout est bon dans le cochon. Je vais présenter les bières du jour.
Bonjour Madame Bière.
Enchantée. Donc on en a deux aujourd'hui. Alors j'ai découvert la deuxième sur le tard. J'ai qu'on l'avait, j'avais oublié. Donc on a une bière plutôt locale par chez nous qui s'appelle Berliner Weiss, qui est donc comme son nom l'indique une Berliner Weiss, mais sauf que c'est
pas très local.
Weiss,
ça, hein.
Weisse. Et c'est une bière de la brasserie de la Rade que je crois que j'avais déjà présentée, donc une brasserie du côté de Toulon. Et la seconde bière du jour, elle vient d'un petit peu plus loin. Elle s'appelle nom de la bière.
Hop in the City,
merci, j'avais un doute. Hop in the City, qui est brassée par la brasserie Pulfer à Zagreb en Croatie.
Ah, il faut arrêter, hein. Faut plus le faire.
Oh là là, là 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 là, cet épisode commence bien, on est dimanche, il est 16h47.
Et on a rien bu.
Et on a rien bu et on n'est pas si fatigué. Enfin, tant que. Mais.
On discute.
Donc voilà. Et du coup, avec toute cette bière, hein, Eric, qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, avec toutes ces histoires de.
D'ailleurs, on va servir notre bière.
C'est vrai, on va regoûter.
Oui, parce qu'on n'était pas sûr du dernier goûtage.
Dans la dernière émission sur The Office. On avait goûté la Teamwork de chez Siberia et qui est en train de mousser gentiment. C'est les aléas du direct qui n'est pas en direct. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va boire donc des bières à propos de Miami, de Vice. Donc, on aurait pu parler de plein de trucs sur Miami. Par exemple, on aurait pu parler des nuls. Oui, avec...
De Vlick, Ami.
Voilà.
Oui, il a raison. Suce-nous la bite.
Ce podcast est interdit voilà. Au moins de. On aurait pu parler de Dexter, car ce justicier meurtrier opère sur les vices d'individus à Miami.
C'est vrai.
Ou on aurait parlé de GTA Vice City.
Oui.
Parce que s'il y a le vice, il y a le tour de vice.
Ou on aurait pu parler de Castorama.
Aussi, voilà.
Du coup. Bon,
j'étais quand même pas sûr de celle-là non plus. Bon, au final, ce qui sera au menu ce soir, c'est Miami Vice, alias De Flic à Miami en VF.
Eh ben oui, je laisse Brice finir de verser. Du coup, c'est ma partie.
On a eu de la mousse, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup la mousse.
Eh ben oui. Attends,
cuir moustache.
Cuir moustache.
Du coup, je me rends compte que j'ai fait l'histoire du de la bière et sa brasserie sur Huile Dieu, mais ça constitue le prochain épisode.
Donc il s'est trompé de.
Donc je me suis trompé, excusez-moi.
Mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Ça laisse le temps à la mousse de redescendre un petit peu et tu pourras déguster ta bière au bon moment.
J'y suis. Non, mais petite erreur de ma part.
Donc si vous aviez un doute et que vous pensiez vraiment que nous étions des professionnels, vous avez la preuve en audio parce qu'on image.
J'ai fait ça en faisant un rapport hier et un article sur les distributeurs. Tu vois,
j'ai très peur de quel type de rapport tu avais hier.
Et bon, passons. Bah oui. Donc, écoutez, je vais parler très brièvement de la brasserie Larade, puisque j'en avais déjà rapidement parlé à plusieurs occasions. Donc, initié par Charles et Simon, il y a de ça quelques années, je crois que c'était un peu avant, je crois que c'était aux alentours de 2016, je crois que la brasserie est née.
Il me regarde en cherchant de l'approbation et de l'aide, il n'en aura pas.
Mais je peux me tromper, donc j'invite les gens qui connaissent la date à nous le dire en commentaire. C'est une brasserie qui marche très très bien par chez nous. C'est quasiment, je crois, la plus grosse brasserie de la région toulonnaise aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'autres petites brasseries qui se sont implantées autour. La brasserie donc avait commencé petit dans un local déjà pas dégueu hein, à l'époque. Aujourd'hui, elle a bien grandi. Elle a fêté récemment, il y a un an ou deux de ça, son anniversaire au Zénith de Toulon.
Ah ouais,
et puis je crois qu'ils réitèrent le truc. Ils ont obtenu, je crois d'ailleurs, de mémoire, hein, je me promets, mais il me semble que c'est eux qui fournissent les bières au stade de Toulon pendant les matchs de rugby.
C'est pas impossible, en effet.
Il me semble.
Je les ai déjà vus aussi dans des constructs de musique à Toulon.
Oui, Néoul.
Il me semble qu'ils sont au Zénith aussi.
Oui, au Zénith. Bah oui, ils distribuent les bières au Zénith, ouais. Tout à fait. Ils ont également. Ils ont commencé au début par. Ils se sont fait connaître, en fait, effectivement, il y a une anecdote avec ça. Ils se sont fait connaître avec une bière qui s'appelait la Girelle. Et il s'avère qu'en fait, le nom de la Girelle était déposé par Heineken, mais ils ne le savaient pas. Et en même temps, comment leur en vouloir? Parce que comment tu peux te douter quand Heineken dépose un nom pareil? Moi, perso, je suppose qu'ils ont peut-être lancé leur. Qu'on s'appelle? Le nom, et Heineken a déposé le nom une fois que la bière était sortie, histoire de les faire chier. Je me demande si c'est pas un truc comme ça. Et donc, Heineken se menace d'un procès. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent dans tous les journaux, d'ailleurs, à la Provence et tout. Et la Girelle devient ce qu'on appelle la censurée. Et pendant des années, vous aviez la censurée. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était galère pour eux parce qu'ils venaient de débuter. Et quand ils ont eu leur truc, la condition était vous devez rappeler toutes vos bouteilles pour tout réétiqueter. Mais les mecs, ils étaient là, ils faisaient maintenant, on peut pas, quoi. Donc ce qu'ils ont fait, et c'est cool parce que les cavistes à l'époque ont joué le jeu, les bars ont joué le jeu, ils ont, ça leur a coûté beaucoup moins cher, ils ont fait des stickers censurés, en fait, de la bonne taille. Et ils les ont distribués à tous leurs clients qui avaient de la Girelle, en fait, encore en rayon. Et en fait, tous les bars et les caves ont stické, censuré dessus. Donc, ça a marché. Après, ils ont fait l'étiquette. Et donc, là, il semblerait que la hache de guerre avec Heineken soit enterrée puisqu'ils ont fait une collaboration avec Gallia. Et comme beaucoup le savent, Gallia a été racheté par Heineken récemment. Enfin, récemment, ça fait bientôt 2 ans, d'ailleurs, maintenant. Hein. C'est quelque chose. Mais c'est un des articles qui est le plus vu toujours sur mon site. Donc, preuve en est que beaucoup de gens font des recherches et doivent découvrir le truc. Hein. Et donc, Lara, entre-temps, s'est déplacée sur un autre local dans lequel elle a une taproom assez sympa, donc qui marche très bien. Et elle organise également chaque année, dorénavant, le festival Bière en Seine, à la Seine-sur-Mer.
D'accord. Ouais.
Dont les dates ont été annoncées là, tout récemment, où l'année dernière, ça avait été un peu moyen, pas à cause d'eux, mais parce que la météo avait fait des siennes et ils ont été obligés de décaler le festival à une autre date. Et c'était, je crois, pendant une date où beaucoup de gens étaient en vacances. Et donc, forcément, ils ont eu moins de monde, je crois, que prévu, un truc comme ça. Donc, cette année, on croise les doigts pour que ça soit
bien en scène,
pour que la météo soit clémente avec eux. Du côté de la Croatie.
24-26 mai. Oh,
24-26 mai. Ah ben non, tu seras pas. Peut-être moi non plus, du coup. On était en train d'en discuter. Parce que Nounours et Brice vont aller au Prague Beer Fest, a priori.
Mais pas ce jour-là, hein, pas du tout, vu que c'est un mois avant.
C'est un mois
avant.
Ah non, merde.
On sera à Lisbonne.
Vous serez à Lisbonne, excuse-moi, je confonds, c'est vrai.
Oui, on se balade.
Vous baladez, voilà, exactement. Bah, moi-même, hein, j'en parlerai plus tard. Pour revenir à l'autre bière, donc la Hop in the City de chez Pulfer. Donc c'est une brasserie croate, comme je le disais tout à l'heure. C'est une brasserie qui a été lancée en 2016 par des amis brasseurs amateurs, donc du côté de Zagreb. Pulfer en fait fait référence via son logo en fait à la pièce mécanique qui joint les deux wagons du tramway qui est semble-t-il assez prisé par les habitants de la ville de Zagreb. C'était un peu leur délire de faire ce petit truc. Alors moi j'ai eu la chance de découvrir Zagreb en chair et en os lors de mon périple croate il y a quelques années de ça, c'était il y a 2 ans. Et c'est une brasserie que j'ai vraiment adorée. Alors j'avais découvert en fait à Beer Academy via le distributeur formidable Grand Est, dont je salue Théo, leur commercial, qui est devenu un pote à force, qui m'avait dit « Mais attends, si tu vas en Croatie, il faut absolument que tu ailles chez Pulfer à Zagreb et que tu les rencontres. » Alors, c'est une brasserie qui fait essentiellement des 50 centilitres de canne, avec des visuels très accrocheurs, souvent très cartoonesques, avec des animaux. Ils remplissent bien, en fait, tout l'espace sur la canette, d'ailleurs, sur leur visuel. Moi je trouve que c'est assez sympa. Ils ont même fait des séries où tu avais un animal qui dit le début d'une blague et un animal qui dit l'autre blague, ce qui m'avait forcé à les vendre en duo.
Ceux-là en ce moment, je vois plutôt des bouteilles avec des visuels assez.
Ah, les dernières que j'ai sont plutôt des. Que j'ai... Enfin, moi j'ai eu là, c'est.
Je tourne la. Bon, là c'est les classiques, hein. C'est forcément.
Là t'es sur les classiques.
Là c'est les classiques.
Effectivement, non, ils ont une série, ils ont beaucoup.
Et après,
de cannes.
Ils ont des spéciales en bouteille aussi, hein, avec Obzinga.
Alors, est-ce que c'est bien Pulfer ?
Pulfer Brewery ?
Est-ce que tu es bien sur Pulfer ou une autre ?
Pulfer Brewery, je pense que c'est la bonne.
Hein. Pulfer, ouais. Ouais.
Et le logo, je crois l'avoir vu en bas aussi. Attends, hop. Ah, bah là, tu commences à avoir des.
Ah, voilà. Ouais, ouais, bah écoute.
Ils sont un peu assagis sur les étiquettes, je trouve.
Bah, en tout cas, les dernières affichées sur les réseaux, c'est ça. Bah, les dernières affichées, en tout cas, sur les réseaux, sont toutes des cannes. Hein, donc.
Ah ouais.
Alors, c'est peut-être une série permanente qui est affichée sur leur site, peut-être pour les vendre.
En première, oui. Mais après, c'est des assortiments des spéciales.
Ouais, ouais. Parce qu'en fait, ils sont, comme je disais, ils font notamment des recettes de genre des smoothie sour.
Ouais.
Très riche en fruits, où à la fin, en fait, quand tu verses la canne, c'est de la pomme pote, hein, le truc. C'est vraiment, c'est un truc de malade. C'est là, tu fais putain, mais il y a des morceaux. Donc, ça peut un peu dérouter. Mais ils ont aussi fait des Imperial Hefeweizen avec de la banane. Alors que la Hefeweizen est plutôt orientée, justement, un peu goût banane. Eux, ils y sont allés avec de la banane, je crois, et du chocolat à un moment donné. Donc voilà, ils font des grosses Imperial Stout. Enfin, ils font des trucs assez costauds, en tout cas à l'export, hein, justement, parce que nous, on les a. Et voilà, petit bémol, c'est vrai que chez nous en France, ils sont vendus quand même très cher. Donc ce qui n'empêche pas d'être vendus, mais effectivement, ce sont malheureusement des cannes que je touche assez cher et qui du coup me permettent pas de les vendre à moins des fois de 10 euros ou 9 euros, ce qui est un peu dommage, y compris les fûts. Donc j'aimerais en commander plus régulièrement, mais malheureusement, c'est vrai que c'est un produit qui est très cher. Et voilà, c'est pas forcément dû au distributeur justement, mais c'est la brasserie qui les vend quand même assez cher. Il faut savoir que quand c'est une purée de fruits comme ils les font, à mon avis justement le coût augmente forcément, vu qu'ils mettent beaucoup de matières premières. Et à cela, donc quand j'étais allé sur place, petite anecdote, ils m'ont fait découvrir une autre brasserie encore plus chère du coup, mais qui s'appelle Mascheron, parce que quand j'étais sur place, ils m'ont dit mais vous faites un road trip avec ta compagne. Je fais bah oui oui. Et là on va redescendre sur le sud, on va aller à Dubrovnik. Il me dit bah si tu vas à Dubrovnik, contacte Raphaël, brasserie Mascheron de ma part, c'est un pote à nous, il vient régulièrement en Gypsy. Donc je suis une fois que j'arrive à Dubrovnik quelques jours après, je contacte le gars et le gars m'a dit ah, ben oui mais absolument. Viens me voir. Donc quand tu rentres dans la vieille ville de Dubrovnik, tu tournes à gauche et tu vas trouver directement un truc qui s'appelle le Glam. C'est genre, du coup ça sonne pas trop bar à bière quoi. Tu dis oula, le mec il m'emmène où? Ah mais non, c'est un bar craft tout petit qui fait un tiers de mon bar, je crois, un truc comme ça. Donc déjà le mien n'est pas grand. Et là je rencontre un mec les 45-50 balais, costaud barbu, barbe blanche quoi. Hyper sympa.
Le père Fouras.
Et c'est un gars en fait qui, je crois que depuis, s'est installé. Et il fabrique des bières un peu fofolle en fait, en collab avec plein de brasseries un peu partout. Il est pote avec un mec de chez Yakima aux États-Unis qui lui envoie plein de houblons expérimentaux, comme ça il teste des bières avec lui. Et l'anecdote qui m'avait fait sourire, c'est qu'il avait fait une bière avec, qu'il appelle la série des Forbidden Fruits. Donc il prend des fruits en fait que personne vraiment connaît en fait, en vrai. Et il va aller chercher des fois dans des vergers chez des gens qui disent « Ah, mais j'ai ce truc-là chez moi, tout. » Et le problème de la Croatie, jusqu'à une semaine avant que je parte de la Croatie, c'est que le territoire était coupé en deux par, je crois que c'est la Serbie, qui est juste à côté.
Je crois que c'est la Serbie.
En gros, le territoire croate,
en partie basse, ça doit être ça, ouais.
C'est coupé par la Serbie. Et avant, enfin, la séparation de l'URSS, en gros, la Serbie, même, c'est ça qui a dit Ouais, vous êtes sympa, la Croatie, mais moi j'aimerais bien nager. Parce que, en fait, quand tu vois la carte de la Croatie, c'est toute une bande de terre quasiment. Bon, il y a certes au nord, il y a quand même un truc, mais ils ont pris toute la côte, ils n'ont rien laissé à la Bosnie. Du coup, ils ont dit Bon, tu prends 10 km de côte et tu nous fais pas chier. Donc, ils ont 10 km de côte. Le souci, c'est que ça coupe le pays en deux. Et tu es obligé de passer une frontière. Donc moi, quand j'y suis allé, c'est pas très pratique. Trois quarts d'heure, une heure de queue au péage, tu dois déclarer tes trucs, monter ton passeport. Enfin, c'est complètement con. Et lui, il me racontait que quand il est monté, du coup, il passe pareil la frontière, il va récupérer ses fruits, il redescend, et là, comme il passe sur un autre pays, il est obligé de déclarer ses fruits. Donc il paye une taxe pour parcourir 10 km, le mec, tu vois. Et quand il arrive en Croatie... il s'en est fallu peu pour que les mecs lui fassent part aussi payer une taxe. Et j'attendais, les gars, j'ai fait 10 km, j'ai pas payé double taxe pour 10 morts, tu vois. Du coup, ça explique pourquoi aussi cette bière en question là.
C'est la Bosnie-Herzégovine.
Bosnie-Herzégovine, voilà. Ça explique pourquoi il était cette bière était très chère, justement. Et une semaine après que je suis rentré en France, ils ont ouvert un pont qui, en fait, il y a plein d'îles en face, sur la Croatie, il y a toute une bordure d'îles. Et en fait, ils venaient d'ouvrir le fameux pont qui, en fait, contourne la frontière bosniaque. Et donc maintenant tu n'as plus besoin de passer par la douane, ce qui fait bien chier du coup la Bosnie-Herzégovine. Mais l'anecdote était marrante parce que voilà, du coup le gars peut dorénavant s'implanter et brasser un petit peu plus comme il veut, parce qu'à l'époque il se frappait des coups en fait de douane inutiles sur 10 bornes à chaque fois et ça le faisait chier.
Ça doit faire mal.
Un coup de douane. Donc voilà pour cette anecdote, donc pu le faire, donc qu'on peut retrouver voilà un peu de temps en temps sur quelques barcraft via le distributeur Formidable Distrib, qui est le seul en France pour l'instant à le distribuer. Mascaron, il y a eu une tentative faite par mon collègue Théo, il m'avait appelé à un moment donné, mais les brassins sont si petits et tellement prisés que du coup ça part en très peu de temps sur place, donc il n'avait pas réussi à choper du fût en importation. Mais voilà, deux petites brasseries bien sympas. Et donc, la Hop in the City qui explicitement, forcément, nous a fait penser, encore plus que la Berliner Weiss de la Rade, à la série
Miami Vice,
Nounours.
Ouais, Miami Vice, donc, ou Deux flics à Miami en français, dans la langue de Molière, comme on dit. C'est une série américaine, une série télé américaine créée par, attention, Anthony Yakovitch et produite par Michael Mann, qui a été diffusé entre 1984 et 1990, donc pendant 6 ans, sur la chaîne NBC. Elle met en scène les enquêtes de deux inspecteurs de la brigade des mœurs de Miami, Sonny Crockett, et non pas David Crockett, c'est son cousin, interprété par Don Johnson, et Ricardo Tubbs. C'est pas de... pas de voilà, j'étais sûr que vous allez avoir l'esprit mal placé. Interprété par Philip Michael Thomas. Il lutte contre le trafic de drogue, la prostitution et la corruption dans la ville de Floride. La série se distingue par son style visuel, sa bande-son, son ambiance et son influence sur la culture populaire des années 80. La série est née d'une idée originale de Brandon Tartikoff. Alors Brandon Tartikoff, c'était qui ? C'était le président de NBC.
Ok.
Et il a beaucoup œuvré dans les années 80, enfin mi-80, début années 90, pour mettre NBC un peu en haut des charts. C'est lui, c'est sous son règne qu'on a eu, par exemple,
son règne,
enfin sa présidence, si vous préférez, qu'on a eu des séries comme qui ont un peu changé la phase des séries à la papa des networks américains, comme par exemple Seinfeld,
ouais,
East Side Blues. C'est lui qui a été à l'origine, enfin qui a programmé des séries comme K2000, Agence sous risque, etc. Qui a aussi mis en place Cheers, le Cosby Show. Donc, il a beaucoup fait pour renouveler le ALF, la loi de Los Angeles. et je crois que c'est lui aussi qui s'occupait de Hill Street Blues. Donc, il a mis en place un peu à la fois les polars types modernes, les comédies modernes,
ouais,
à l'ordre du jour sur NBC à l'époque, quoi. Donc, ce gars-là, eh ben, forcément... à un moment donné, il veut que une série policière soit mise à l'antenne, mais un peu inspirée par le clip vidéo de In the Air Tonight de Phil Collins. Oh. Hein, le visuel lui plaisait, machin, etc.
Avec ce fameux début de batterie illustré par Mike Tyson dans The Hangover.
Ouais, tout à fait. Et donc, il confie le projet à Anthony Yerkovitch, un scénariste qui justement avait travaillé sur la série Hill Street Blues de Steven Bochco. Il faut que je trouve un moyen de vous causer du créateur de NYPD Blue, un de ces quatre aussi, quand même. Steven Bochco, donc, hein, vous vous en doutez. Yerkovitch imagine alors un univers où les policiers sont confrontés à la violence et à la tentation du monde criminel, tout en adoptant un look et un mode de vie un peu glamour. Il choisit Miami comme décor, car c'est une ville cosmopolite, ensoleillée, on dirait Marseille, quoi, aux frères.
La délinquance, tu parles, ou du soleil?
Et on prend à la montée du trafic de cocaïne.
Ah oui, voilà, on dirait Marseille.
Il baptise la série Miami Vice en référence à la brigade des mœurs, Vice Squad en anglais, évidemment.
Ouais, okay.
Et au contraste entre l'image paradisiaque de Miami et de sa réalité sombre.
Sombre. Du coup, pour incarner les deux héros, Yerkovitch et Mann font appel à deux acteurs peu connus à cette époque, Don Johnson et Philip Michael Thomas. Johnson interprète donc Sonny Crockett, un policier divorcé qui vit sur un yacht avec un alligator nommé Elvis. Il conduit une Ferrari blanche, un peu d'originalité. John Hanson est depuis connu pour avoir interprété Nash Bridges dans la série du même nom.
Il a appelé Joe Dodson, on est Joe d'accord, hein, ça va, c'est pas moi.
ouais, et il est même apparu dans la série des Watchmen, si vous avez vu la série. Et dans les films à couteau tiré et Django Unchained.
Ah oui, Django, ouais, je me souviens.
Thomas, dont c'est sans doute le seul rôle marquant en dehors du doublage de Lance Vance dans GTA Vice City, on se recoupe un petit peu, joue Ricardo Tubbs, un policier de New York.
Je m'en remets pas de ça.
Un policier de New York qui vient à Miami pour venger son frère tué par un trafiquant et qui décide finalement de rester comme coéquipier avec Sonny Crockett. Les deux acteurs forment donc un duo assez complexe, charismatique, et séduit le public par leur sens de l'humour, leur courage et leur sens de la justice. Bien américain, quoi, le buddy movies, mais version série. Ils sont entourés par d'autres personnages récurrents. On a le lieutenant Martin Castillo, qui est joué par Edward James Olmos, qu'on connaît désormais surtout dans le rôle de la dernière série Battlestar Galactica. Un jour peut-être je vous ferai l'épisode, hein.
Sachant que 90 BPM nous a envoyé un colis avec de nouveau de la Battlestar Galaxitra.
Ah,
ils se sont dit depuis le temps elle doit être périmée la précédente.
Je me bouge le cul. Du coup, il joue le chef de brigade. Il impose son autorité, son calme face aux situations difficiles. On trouve encore les inspecteurs Gina Calabrese, Sandra Santiago, Trudy Joplin, joué par Olivia Brown, les deux femmes de l'équipe qui participent aux enquêtes ainsi qu'aux infiltrations.
Ouais, et la série se démarque également par sa réalisation soignée. Ça fait appel souvent à des techniques cinématographiques comme l'utilisation de la caméra à l'épaule, ce qui certes maintenant est un peu surutilisé, mais qui à l'époque c'était très novateur. C'est recours aussi aux couleurs très vives, aux contrastes. Enfin, on a un peu une imagerie un peu disco en visionnant les couleurs de cette série, et ou encore le montage assez rythmé. Michael Mann, qui supervise la production, impose sa vision artistique, son exigence de qualité. Il fait appel à des réalisateurs très talentueux comme Paul Michael Glaser, vous le connaissez, c'est Starsky dans Starsky Hutch, ou encore Abel Ferrara, connu entre autres pour Bonnie Snatchers. John Frankenheimer, réalisateur du Prisonnier d'Alcatraz, est plus connu de notre génération pour Ronin.
Ah oui.
Ou encore, même Quentin Tarantino, qui signe le dernier épisode de la série.
Oh.
En 90, c'est-à-dire que c'était avant Pulp Fiction. Il confie également la musique à Jan Hammer, un compositeur tchèque, qui crée le célèbre thème instrumental de la série, ainsi que de nombreuses musiques originales.
Qu'on va passer après, d'ailleurs.
La série utilise aussi des chansons populaires de l'époque, comme I'm So Excited des Pointer Sisters, You Belong to the City de Glenn Frey, ou encore In the Air Tonight de Phil Collins, qui devient l'un des morceaux emblématiques de la série, en plus de l'avoir inspiré.
C'est vrai. Le
principe d'avoir cette série. C'est un peu la boucle dans la boucle, hein, ce truc-là. Phil Collins, si tu nous entends. La série connaît un succès immédiat et devient un phénomène de société. Elle influence la mode avec des costumes pastels, les t-shirts blancs, les lunettes de soleil et les chaussures sans chaussettes portées par les héros. Oui, c'est très important, les chaussures sans chaussettes. Il fallait que j'en parle. Elle inspire aussi d'autres séries policières comme Magnum ou 21 Jump Street. Elle reçoit de nombreuses récompenses, comme le Golden Globe de la meilleure série dramatique en 85, ou l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique pour Edward James Olmos en 1986. Le Capitaine Adama hein, dans...
Oui, tout à fait. Star
Galactica, lui-même. Hein.
Un Brice. Si
un jour tu regardes l'épisode... J'ai vu toute la première saison, il faut que je la re-regarde parce que j'ai rien écrit. Mais...
Ouais. Elle est également saluée par la critique qui loue son originalité, sa modernité et sa profondeur. Ce n'est pas sale. La série compte 111 épisodes répartis en 5 saisons, 108 d'une durée classique et 3 épisodes spéciaux de 90 minutes. La série se termine en 90 sur une note ambiguë aux croquettes et tubs. Je suis désolé, Tubbs.
Croquettes et Tubbs. Ça fait... Le goûter échangiste. Des croquettes à la tub.
Ils se demandent s'ils vont continuer à exercer leur métier ou non.
Des arancini pour adultes.
La série laisse un peu une trace indélébile dans l'histoire de la télévision américaine, dans le mémoire des téléspectateurs, comme ça.
D'ailleurs, juste avant que Brice enchaîne, je vais vous passer le générique, du coup, le fameux.
Mais j'enchaîne les Tubbs.
On va la garder, bon, t'as celle-là. On va la...
Chéri, fais-moi taire, le générique.
Oh yeah.
Donc c'est une série de plans hein, de Miami. Hein.
Il tape sur des bambous, ça lui fait du bien.
Vous saurez que si vous allez à Miami, il y a des lévriers, des courses de chevaux, des plages.
Et sans doute un alligator.
Et des alligators.
Des bateaux, la mer, les palmiers, tout ça.
Tout ça ?
Ah oui, au moins tout ça.
Anecdote d'ailleurs, la bande-annonce de GTA 6, qui est sortie tout récemment, qui se passe de nouveau à Vice City, du coup, le pendant Rockstar de Miami, la bande-annonce a des plans qui font pas mal penser au générique justement de Miami Vice. Si vous avez vu la balance, c'est un petit peu le même délire, donc voilà. Sur une chanson de Tom Petty, toujours un peu dans le même style musical d'ailleurs hein, que Miami Vice.
Ah bah il joue beaucoup là-dessus.
Dont Rockstar s'est vachement inspiré du coup.
Tout à fait.
Du coup, tu parlais d'une mémoire, d'une trace indélébile dans la mémoire. Et donc en 2006, Michael Mann, qui a été révélé au grand public par ses réalisations comme Heat, Le Dernier des Mohicans, Ali ou encore Collateral, décide de se mettre à la réalisation d'une adaptation cinématographique de sa propre série.
Anecdote sur Le Dernier des Mohicans. À l'heure où on enregistre, il passe ce soir à la télé.
À l'heure où on enregistre, il n'y en a plus.
Donc vous ne le saurez pas.
Il
n'y
a plus de Mohicans.
Donc du coup il l'écrit, produit et met en scène le film. Il le choisit dernier... de conserver le titre original Miami Vice.
J'imagine Le Dernier des Mohicans, mais c'est une version avec un Arménien avec un accent pied noir. Touchez pas ma terre.
C'est pardon. Bon ça y est, ce pardon.
C'était l'instant Arménie de Greg.
Il va chanter des choses d'avoir dans pas longtemps.
Oh oui. La bohème. Du coup, il reprend les personnages de Croquette et Tubbs, mais il change les acteurs de l'époque. Il confie les rôles principaux à...
Arrêtez avec ce nom. Appelez-le autrement, bordel. J'ai 12 ans, moi.
Donc, il confie le rôle à Colin Farrell, qu'on a vu dans Le Pingouin, qu'on a vu jouer Le Pingouin dans le dernier The Batman, et surtout connu pour Bon Baiser de Bruges.
Qu'on a vu dans Le Pingouin. C'est dégueulasse.
Ben bah ouais, il fait ce qu'il veut.
Ah, j'imagine le mec qui se tape Bingo là, avec un Kinder Pingouin. Là.
On appellera ça le personnage premier.
Et moi, je suis l'inspecteur Tom. Et alors, superbe, bravo. Allez, on a viré dans la zoophilie aujourd'hui.
En plus de Colin Farrell, nous avons aussi Jamie Foxx, qu'on a déjà vu dans Ali et Collateral du même réalisateur, mais aussi connu pour Django Unchained ou Ray. Ce sont à l'époque deux stars montantes du cinéma. Il situe l'action du crime. Il situe l'action dans le contexte contemporain, menace de terrorisme, mondialisation du crime, et remplace la guerre froide et le cartel de Medellin de l'époque. Il opte pour un style plus réaliste, plus sombre, plus violent que la série, en utilisant des caméras numériques, des décors, des décors naturels, ainsi que des dialogues minimalistes. Pose ta question.
Je vais pas vous passer aussi la main annonce après toi, Brice.
Ah bah volontiers.
Donc,
Le film raconte comment Croquette et notre ami Tubbs, deux flics infiltrés, doivent démanteler un réseau de trafiquants de drogue dirigé par un mystérieux chef nommé Montoya, qui opère depuis la Colombie, Cuba et Haïti. Pour cela, ils doivent d'abord gagner la confiance de son bras droit, Hierro, et de sa compagne, Isabella, une femme d'affaires chinoise dont Croquette tombe amoureux. Ils doivent aussi faire face aux dangers de leur mission, aux trahisons de leurs collègues et aux conséquences de leur choix.
Et oui.
Tant.
Et vous allez voir que la bande-annonce du coup du film, on change. On n'est plus trop sur In the Air Tonight, d'ailleurs. Excusez-moi. Ah, facile, non, non, parce qu'il y a une annonce où il y a du Linkin Park. Ah non, je vous ai mis la bande-annonce.
Ah, c'est la bande-annonce de la série.
C'est la bande-annonce de la série. Autant pour moi, excusez-moi les copains.
Miami. N'essayez pas de faire ça chez vous, il n'y a que des professionnels qui doivent faire
cette
ça.
Cette cascade a été réalisée par des professionnels. Miami Vice trailer.
Et du coup, on va retrouver notre Linkin Park. Parce que là, tu m'as vendu du rêve.
Et oui, mais c'est Linkin Park dans la bande-annonce, effectivement. Donc voilà, je l'ai. Je crois que la bande c'est en anglais, mais elle dure une minute. Il n'y a pas trop de bande-annonce française, je ne sais pas pourquoi. Sur YouTube, en tout cas. Donc, mais ouais, c'est.
Et la minute a déjà commencé. Si on n'entendait rien, c'est normal.
C'est normal.
Non, voilà.
Un hélicoptère survole la ville.
Badness, it's happening right now. Right now.
Oui, c'est en anglais, désolé. C'est plus pour la musique, du coup, ils ont changé de thème. On n'est plus vraiment sur du disco, du M70, quoi, 80. Ah, c'est un remix avec Jay-Z.
Ouais.
My bad. Voilà, c'est... La bande-annonce n'est pas très radiophonique, malheureusement. Donc voilà, excusez-moi, mais c'était pour faire la petite aparté musicale.
Musicale, tout à fait. Et d'ailleurs, la bande-annonce contient du Linkin Park, mais je crois que le film n'en contient pas. Si Jay-Z,
Linkin Park, Jay-Z, ouais. C'est...
Oui, si elle y est au début.
Elle y est au début,
au tout début. C'est une des quatre premières chansons du film.
Okay.
Dans un nightclub.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Oui. Déjà, pendant que tu vas, je vais chercher notre première bière.
Eh bien, va donc chercher notre première bière.
Donc,
je t'en prie.
Comme je l'ai dit, le film reprend certains éléments de la série, comme les noms des personnages, les bateaux rapides, les voitures de luxe, ou encore la musique de Jan Hammer. Jan Hammer. Je ne sais pas comment le dire en tchèque.
Hammer Time. Non, j'en ai aucune idée.
Il fait aussi référence à certains épisodes, comme celui où Croquette et Tubbs doivent transporter de la drogue par avion, ou celui où Croquette tombe amoureux d'une femme liée au trafiquant. Il conserve aussi l'esprit de la série en explorant les thèmes de la dualité, de la corruption, de la loyauté, de la passion. Ouais, je suis en mode enjoué aujourd'hui.
Ouais, je vois ça. Ça, bon, c'est les fruits de la passion qui t'ont...
Les fruits de la passion.
Vas-y, Frankie.
On profite parce que Greg n'est pas là. Il t'a acheté une bière, donc on chante du Frankie Vincent. Et il découvrira ça au montage. Le film reçoit des critiques...
Ah bah il y a l'inspecteur Tom, hein, du coup.
Voilà. Le film reçoit des critiques mitigées qui saluent la mise en scène de Man, certes, mais qui reprochent le manque de charisme des acteurs, le scénario confus et surtout l'absence du mélange humour et glamour de la série. Il réalise un score assez décevant au box-office, d'ailleurs, avec 163 millions de recettes mondiales pour un budget de 135 millions. Donc 135 millions plus le budget marketing, les 163 millions, c'est largement dépassé. Enfin, on n'y est pas, quoi. Il est néanmoins considéré par certains comme une œuvre ambitieuse et audacieuse, mais pas par grand monde, en vrai. Miami Vice, c'est donc une franchise culte qui a marqué la télévision et le cinéma par son esthétique, sa musique, ses personnages et ses intrigues. Qui a su capturer un peu l'air du temps, la transformation années 80, années 90, avec la vision de la drogue, la drogue, la dureté, je crois pas de Tubbs, du monde, et voir un peu tous ces changements sociaux, politiques et culturels. Mais elle a su quand même montrer plus tard une vision un peu différente via le film, mais sans pour autant vraiment renouveler le succès qu'a pu être la série. Mais bon, quand vous êtes né dans les années 80, que vous avez vu ces fameuses chaussures sans chaussettes, Ferrari blanche, cet alligator et ces t-shirts sous les costumes, les vestes de costume. Ben, je suis désolé. On va laisser parler Greg. Parce que je ne vois que ça. Bah, voilà, vous savez que j'ai pas pu conclure là.
Eh ben, ça tombe bien que tu parles de chaussettes inexistantes sur des chaussures, dans les chemises ouvertes, les mocassins, parce que je rentre tout juste d'Italie. Tadam, transition, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. On est à Marseille, faut pas l'oublier. Anecdote marrante, du coup, juste avant de débuter, sachez, cher public, que j'ai obtenu la note de 4,5 sur 5 sur Instagram, sur le compte qui s'appelle Toilette Advisor, et je suis très content de ça, hein, bravo.
On est ravis d'avoir notre photo en fond d'une photo de toilette sur un Instagram qui s'appelle Toilette Advisor. Je pense que qu'on peut le mettre sur un profil Tinder.
Mais clairement.
Je suis apparu sur Toilette Advisor.
Je suis sur le...
Il va falloir travailler pour gagner le dernier demi-point parce que
je vais lui demander qu'est-ce qui manque pour ce demi-point parce
la musique mec, la musique peut-être la boule à facettes et la musique
ou le petit dansant, je ne sais pas pourtant on a mis des serviettes hygiéniques, des clients du mois, des chartes
pas au même endroit
féministes on a tout mis, on a le petit lavabo, tout est propre mais non, mais il nous manque 0,5 voilà, bref. Donc comme je vous le disais, je reviens d'Italie, plus précisément, je suis allé près de Bologne, dans la petite ville de Rimini, que j'ai découvert grâce à une chanson des Vampas, personnellement. Qu'es-tu allé faire à mourir à Rimini, quelque chose comme ça. Donc Rimini qui est une station balnéaire, en fait, qui est l'équivalent, je pense, de la Grande Motte en France, qui quadruple ou quintuple sa population chaque été. Rimini accueille chaque année ce qu'on appelle le Beer and Food Attraction.
Et tu sais que... La chanson des Vampas, c'est hommage à un cycliste.
Ah, d'accord.
Un cycliste Marco Pantani qui trouvera la mort par overdose dans un hôtel de la ville italienne de Rimini.
Je ne savais même pas que Marco Pantani était mort.
Eh ben oui, par overdose.
Ah ben d'accord.
Voilà, il avait gagné un grimpeur cycliste vainqueur du Tour de France 98. Et il est mort par overdose le jour de la Saint-Valentin 2004.
Eh ben bravo.
Dans une chambre d'hôtel à Rimini, voilà.
Ah d'accord, c'était pour ça.
Et... Didier Vampas, ouais. Comme il aime le vélo, et il avait déjà fait une chanson avant qui s'appelle Jalabert. C'est comme ça que j'ai connu les Vampas d'ailleurs.
Ah d'accord.
Il était un fan de Pantani, donc il lui a écrit cette chanson.
Ah, très bien. Mais moi, quand je vous disais, je suis allé au Beer and Food Attraction de Rimini. Je ne connaissais absolument pas ce salon. En fait, j'ai été invité donc par la Chambre de commerce franco-italienne de Marseille. Qui cherchait en fait des acheteurs pour créer une délégation internationale avec d'autres chambres de commerce visiblement dans d'autres pays en fait, et on se retrouve une cinquantaine d'acheteurs. Donc je me suis retrouvé avec des Américains, mais qui d'ailleurs j'ai bien sympathisé, on avait des Espagnols et nous étions deux Français, donc moi et mon collègue Daniel que je salue de la société de distribution Millet, qui est une boîte de distrib familiale du côté de Paris, qui moi je n'ai jamais travaillé parce que ils font quasiment je crois que de la région parisienne. Ce Beer and Food Attraction, donc moi je le connaissais pas, je l'ai découvert. Et c'est relativement immense. C'est difficile de vous donner un ordre d'idée sur la grandeur en mètres carrés des lieux. Mais en gros, on était sur 7 hangars à peu près gigantesques qui font 2,5 fois, voire 3, le plus gros hangar qu'on a chez nous à Marseille, au Parc Chanot, qui est l'espace en fait dédié justement à ce type d'événements, des salons et des festivals. Et donc, vous aviez un pôle donc, du coup, avec 50 brasseries craft à peu près italiennes, un pôle start-up, un pôle de professionnel, donc où vous aviez des houblonniers, des malteries, des sociétés qui font tout ce qui est fermentation, levure, des fermenteurs, etc.
Et je suis sûr que c'est là-bas que c'était enfui Pôle emploi.
Ah, peut-être.
Oui, ça s'appelle France Travail maintenant.
France Travail.
Faut se mettre à la page, hein,
c'est fini, là, t'es vieux hein, déjà.
Ah oui, ANPE,
tu viens
monsieur.
À peine de sortir de ANPE, faut dire, mais et pas de l'ANPE, hein, parce que tu n'y étais pas. Mais voilà, ce salon est assez gigantesque puisque voilà, j'ai vu ce stand-là. Donc moi, au début, en tant que délégation internationale, j'étais obligé d'avoir 15 rendez-vous. Donc premier jour, on arrive. Dès 9h du matin, organisation impeccable. S'il y a des gens de cette organisation qui nous écoutent en France, sachez que c'était fait au poil de Cupré. C'était très très bien fait. Rien à dire. Bon,
comment peut-on considérer quelque chose de bien fait au point au poil de cul ?
Je sais pas, on est au poil de cul, mais c'était très bien fait, quoi. C'était vraiment au poil. Donc on a eu un personnel très bon, l'hôtel était très cool. Enfin bref, franchement, c'était vraiment vraiment très agréable. Et donc sur ces 15 rendez-vous, donc déjà à chaque fois, la brasserie vous offre un verre à boire. Alors autant vous dire que c'est un salon qui m'a étonné parce que quand vous êtes donc visiteur, simple visiteur ou que vous soyez juste amateur de bière ou là pour faire des affaires, vous payez 40€ l'entrée et 65€ le passe de jour. Une fois sur place, c'est à volonté. Vous demandez à goûter tel ou tel truc, on vous sert. Et c'est un modèle qui m'a surpris parce que nous en France, ce modèle-là, comme je vous disais tout à l'heure en off, il est essentiellement réservé à des trucs de vignerons parce que vous payez votre stand. Mais tous les fûts sont à votre charge, donc les gens ne payent rien d'autre que l'entrée. Et du coup, je me demandais quand même au bout d'un moment, auprès des brasseries, j'ai dit, mais attendez les gars, vous écoulez 40, 50, 100 fûts selon le volume de brasserie ou si vous êtes distributeur, est-ce que vous y perdez pas du coup au change ? Ils me disent, non, parce qu'on a tellement de gens qui viennent d'autres pays, d'Italie et tout ça, qu'en fait, on fait des affaires et on rembourse notre participation grâce aux affaires qui sont générées par ça. Et donc, pour essayer d'amplifier un petit peu ce côté business, la délégation internationale dont j'ai fait partie a été créée. Donc, ils invitent plusieurs acheteurs de divers pays pour pouvoir générer en fait des affaires entre les brasseries et ces acheteurs-là. Donc, ce qui est une très bonne chose. Sachez que dans le premier hangar, donc moi, je découvre ce premier hangar au début pour mes 5 premiers rendez-vous. Et le 6e rendez-vous, c'est un distributeur. Et là, je vois que je suis dans un autre hall. Je vois qu'il y a beaucoup de monde quand même, non seulement parce que c'est immense. Hein. Et là, j'arrive dans un autre hall, toujours dédié à la bière. Et là, ce sont les distributeurs et les industriels. Et alors là, c'est des bars qui font 3 fois mon bar, avec terrasse, 40 becs pression. Il y en a un tous les 3 mètres. Vous avez un truc Polaner, un truc Birra Moretti, un truc Carlsberg, un truc Heineken. Vous avez tout. Plus les distributeurs qui ont des food trucks, des beer trucks avec 10, 20... 30 becs pression aussi. Donc, on avait de tout, de l'américain, de l'irlandais, de l'italien. Enfin, c'était incroyable. Il y avait du craft dans ces zones-là, parce qu'il y avait des distributeurs de craft également. Mais ils étaient cantonnés, en fait, à une partie distributeur et l'autre partie industrielle. Donc, c'était en plus assez bien cloisonné. Donc, j'ai pu discuter avec des américains. Donc, si vous voyez des tap takeovers ou des gens au futur, peut-être, festival Marseille Bière de 2025 qu'on est en train de monter avec Antoine, sachez que certains Italiens viendront justement de ce festival-là. Et on avait ensuite une autre section dans un autre hangar toujours aussi grand avec tout ce qui était nourriture. Donc vous avez des marques de sauce tomate, des marques des trucs Sclampa, là, je sais pas quoi.
Vous avez bière et pesto.
Non, non, il y a des trucs de sauce tomate, il y avait des marques de chips, de graissin, de.
Ça pourrait faire un bon parfum de chips Bretz.
Ah oui, de Lay's.
Alors on va de Lay's de Bretz avec. Alors nous avons bière, pesto. Et je ne sais plus.
Ah non, mais dingo, quoi, le truc. Après, il y avait une autre section où c'était la mixologie. Oui, c'est vrai. Mixologie, donc là, vous avez de toute façon tout ce qui était spiritueux, cocktail. Pareil, vous avez des petites distilleries. Alors, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de faire ces distilleries-là. Mais pareil, hein, vous serviez et vous filez les trucs. Donc, je garderai ça pour l'année prochaine. Parce que je compte bien y retourner du coup. Après, vous aviez un autre pôle où c'était tout ce qui était matériel pour les restaurants. Vous avez les mecs qui faisaient les menus, vous avez les mecs qui faisaient les fours, les frigos, tout ça. Et vous avez encore une section avec toute une partie du coup restauration derrière. Et une dernière partie avec tout ce qui était soft. Donc vous avez Red Bull, Coca, etc. Eau minérale, eau gazeuse, etc. Donc vous avez beaucoup de choses. Pour traverser l'entièreté du truc, il me fallait 10 à 15 minutes. Rien que le midi pour aller au restaurant qui nous était réservé. Donc c'était assez dingue. Moi, j'ai pu faire en gros pas mal d'affaires entre guillemets pour des futurs tap takeovers, comme je disais, des salons. Ça m'a permis aussi de voir que le marché italien est très différent du marché français.
Déjà, il parle italien.
Déjà, il parle italien et avec les mains. Mais surtout, en fait, les Italiens, vous trouviez très peu de nez IPA, très peu de triple IPA DDH, très peu d'Imperial Stout. On n'avait pas des trucs foufou comme le font des gens comme Mogwai, aucun Gruit. De Saint-Jean de Port. Non, vous avez beaucoup de trucs classiques, des LS, des Doppelbock, des Pilsner, des Lager, etc. Avec quelques versions qui forcément sont un petit peu revisitées, donc avec des fruits ou des épices. toujours très bien fait. Il y avait évidemment quelques NEPA, quelques Imperial, mais on restait toujours sur des trucs classiques, donc de la Porter, tout ça. Et c'est aussi ça, pour les Italiens du coup veulent s'exporter et ils me disent qu'ils ont des difficultés à le faire. Effectivement, j'ai écrit là récemment, il a été publié hier, un article sur le distributeur dans lequel j'ai rajouté en fait en dernier moment une section liée justement à ce passage au salon. Alors pourquoi les Italiens ont aussi du mal à exporter sur la France? Il faut savoir que comme ils ont des styles très classiques, nous en France on les a à travers nos brasseries les plus locales en fait. Donc autant pas se faire chier à importer d'Italie des trucs qu'on peut trouver à côté de chez nous. Déjà. Ensuite, comme le disait mon confrère Julien de chez Gouraud Beer, qui est un des plus gros distributeurs en France actuellement, et il me disait effectivement, il y a un des intérêts aussi du fait qu'on a des difficultés à faire venir des palettes d'Italie. Alors, il m'a pas expliqué exactement pourquoi, mais effectivement, tu dois peut-être avoir des soucis, peut-être au niveau des douanes, parce que même si on a la libre circulation des marchandises, on a quand même de la douane à déclarer, parce que c'est de l'alcool. Et aussi, le territoire italien, la frontière italienne est parfois peut-être un peu compliquée à traverser, sachant que l'autoroute entre Nice et Marseille, je crois, est une des plus chères de France. Donc selon où vous allez, si Gouraud Beer, par exemple, a son dépôt à Montpellier, admettons, je crois que c'est à Montpellier, ça vous fait un coup
oui,
de...
Marseille, je crois que c'est 25.
Voilà.
25, quoi.
Ça reste un coup
j'aurais
de...
dit plus.
Plus maintenant ?
Plus, ouais. Bah, c'est un coup de transport quand même. Assez...
Ouais, j'aurais dit une bonne trentaine d'euros.
Ah, trentaine
d'euros.
Bon, moi, les dernières fois où je l'ai fait, j'avais en tête 22,80 ou un truc comme ça. Donc,
c'est pas mal cher. Ouais,
je l'ai pas fait depuis quelques années.
Voilà.
Après,
mais...
c'était pré-Covid.
mais c'est pas mal cher.
Moi, c'est mon patron qui paye.
Voilà, mais c'est pas mal cher.
Donc c'est nos impôts.
Et sachez-le. Et donc aucun intérêt de base, on va dire, à part quelques grosses brasseries qui peuvent valer le coup. En France, en tant que brasserie italienne, on a, je les ai déjà rencontrés, on a Brewfist, Mr. B, Kennedy Gora et pour la plus connue, Baladin. Baladin qui, entre parenthèses, j'ai pu dîner avec l'équipe de Baladin le soir grâce à mon collègue Daniel. Des gens que j'ai vraiment, vraiment bien kiffé, qui sont bons de lire. J'imaginais Baladin comme un gros truc, en fait, un petit peu semi-indus au départ. Et c'est un tort, hein, puisque Baladin est en fait une entreprise très familiale créée par Théo Musso, qui est l'inventeur du verre Técou. En fait, le fameux verre que vous voyez, en fait. Le fameux verre que vous voyez partout, vous savez, qui est un petit peu évasé, en fait, qui ressemble à un verre à vin avec un petit bord d'évasement. C'est le verre, en fait, le plus connu dans le milieu craft, en fait, qui est le plus adapté. Donc, Técou, donc le TE vient de Théo, et le
Q. Je suis très peur de que tu dises Técou.
Et le Q, il vient, je crois, d'un japonais qui a designé avec lui le verre. Et donc ça a été aussi pour moi l'occasion de discuter avec Baladin qui est aujourd'hui en train de s'agrandir et qui eux parviennent un petit peu à s'exporter en France puisqu'on les trouve hein, dans pas mal de cavistes en France et souvent des cavistes vins parce qu'ils ont un design de bouteille qui fait très hard à la table moi-même du coup je suis en train de voir avec eux, j'ai reçu un mail d'ailleurs ce matin de Alvids qui est l'export manager, on est en train de voir éventuellement pour faire un tap takeover voir les faire venir au festival l'année prochaine si le festival du coup se concrétise, donc c'était très intéressant de les rencontrer. Ils font notamment des séries, j'en ai une chez moi d'ailleurs, c'est dans un coffret en bois et ils font des barriquets la mienne je crois s'appelle Soy Sauce parce qu'ils ont fait un truc justement de la sauce soja, je sais pas
Kikoman.
Quoi très voilà non, mais très particulier et ils nous ont fait goûter des trucs assez dingos, ils font un peu de spiritueux je crois aussi et voilà, très bonne brasserie Baladin que j'ai redécouvert en fait durant ce salon.
33,60€ l'aller-retour Marseille-Nice au péage,
donc c'est pas donné. C'est largement pas donné
l'aller-retour.
Ah oui, alors,
donc 16,80€.
Oui bon c'est quand même cher, mais pour un camion c'est beaucoup plus cher.
Je me doute.
Du coup. Et enfin, j'ai également eu l'occasion de rencontrer la American Brewers Association, notamment Adam qui les représentait en Italie. Et la problématique US est arrivée, puisque du coup, c'est eux qui avaient demandé à me voir. Enfin, non, c'est moi qui avais demandé au début de les voir. Le truc s'est exporté, c'est expiré pardon, sur le logiciel. Et ils m'avaient du coup renvoyé une demande. Donc, du coup, c'était intéressant, on a pu discuter. J'ai découvert des brasseries que je ne connaissais pas, certaines distribuées par des Italiens notamment, et d'autres qui étaient sur place. C'était hyper intéressant parce que du coup, il me disait nous, on a envie d'entrer sur le marché européen, notamment le marché français. Et il me disait notamment on a deux problématiques. La première, c'est qu'on se rend compte que les Français arrivent à faire.
Ils parlent français.
Ils parlent français. Et ils parlent étranger à l'étranger, c'est chiant. Non, mais ils arrivent à faire des bières qui, qualitativement, arrivent à s'aligner sur beaucoup d'entre nous. Si on sort vraiment de certains gros trucs qui font des trucs de malade, mais. Les Français n'ont pas à rougir face à la qualité des bières américaines aujourd'hui. On trouve d'excellentes NEIPA françaises et tout ça. Et il me disait, on a aussi, nous, bah, aux États-Unis, on en parlait en off avec Eric et Brice, ils doivent être payés sur place de suite. Et nous, on a notre logique de comptabilité à 30 jours, on va dire, voire plus des fois. Et le problème, c'est que quand il faisait des commandes auprès de distributeurs, il me disait, bah, nous, on n'est pas arrivé à avoir des contrats fiables, que ce soit en termes de régularité de volume ou bien en termes de paiement. Il me disait notamment, il y a un distributeur avec qui ils étaient en litige parce qu'il leur devait, je crois, des factures qui dataient d'il y a 3 ans. Donc forcément, ça les freine. Et comme je leur disais, j'ai dit, mais le problème, c'est que le marché des distributeurs, qui sera d'ailleurs l'objet du prochain épisode, du coup, ça va se suivre, le marché des distributeurs en France est en train de changer énormément. Suite à de nombreux rachats, il y a l'arrivée de petits nouveaux, mais on n'est pas encore sur de la distribution vraiment costaud qui peut se permettre de créer du volume et faire acheter par nous les cavistes et les bars des fûts à moins de 150 €. Parce que le problème pour moi, par exemple, quand je vais acheter une bière américaine auprès d'un distributeur, je vais vous l'acheter, mon fût va me coûter peut-être plus de 200 €. Ce qui pour moi est très cher parce que ça fait que si je veux rentabiliser ce fût vraiment, je serais obligé théoriquement de vous vendre une pinte à 15 balles.
Ah ouais, ça picote. Hein.
Ça picote un peu. Et moi, c'est un truc que je refuse. J'essaie de ne jamais dépasser les 8,50. Donc forcément, moi, c'est rédhibitoire. Je ne prends pas une bière dont le fût dépasse 150, 140 balles. Sauf si c'est exceptionnel, genre une Imperialstadt où je la vends en galopin en demi. Et là, à ce moment-là, c'est rentable pour moi. De même qu'une canette. Si je veux que vous puissiez vous acheter une canette de 44 ou de 50 centilitres américaine à moins de 10 balles, il faut que moi, je réussisse à l'acheter entre 2 et on va dire 4 € grand max si vraiment c'est un produit exceptionnel. Et le problème, c'est qu'on les achète des fois entre 5 et 7 balles. Et ça peut arriver des fois jusqu'à 7 balles. Et c'est quasi impossible en fait à revendre dans des régions comme Marseille. Peut-être qu'à Paris, on trouve une clientèle, mais quand vous avez un carton de 24 bières que vous avez acheté ce prix-là, c'est
difficile
compliqué.
De trouver
très compliqué ça. De les vendre. J'ai pour mémoire une brasserie que j'avais, le nom m'échappe, que j'avais justement pris 2 cartons de 12. Heureusement, c'était parti parce que je savais que j'avais cette clientèle-là qui allait acheter. C'était de la bière brésilienne, ça coûtait une fortune. La canette partait à 14 €. Moi, pour 14 balles, j'arrive à vous vendre des bouteilles de 75 de barriquets hyper bien faites qui viennent de chez SPO, par exemple, ou d'autres. Donc forcément, ça freine un petit peu l'entrée sur le marché des Américains. Donc eux, ils attendent d'avoir un distributeur qui prend suffisamment de volume, qui puisse du coup derrière revendre à des prix attractifs auprès des cavistes et des bars. Notamment en Italie, donc le distributeur que j'ai rencontré, qui lui pouvait me dire, mais moi je peux te proposer des fûts à moins de 100 € hors taxe. Alors certes, ce n'est pas les meilleures brasseries a priori, donc on n'est pas sur du Alchemist Brewery, les inventeurs de la NEIPA notamment, mais on est quand même sur des produits que j'ai goûtés qui étaient très bien faits. Mais ils importent des volumes suffisants pour pouvoir faire baisser les coûts. Et nous, en France, et comme on le dit, un distributeur, j'en parlerai dans le prochain sujet, un distributeur a quand même 2700 brasseries en France à découvrir. Donc, il n'a pas trop envie de se faire chier et aller chercher, avec toutes les démarches que ça engendre, des bières aux États-Unis. Ouais. Et qui plus est, je rajouterai ça pour finir, quand vous achetez une bière américaine, que vous allez payer 9 balles ou 10 balles la canne, vous avez une équivalence de la même chose en France qui peut être à 5-6 €, qui soit française ou même tchèque, par exemple, pour parler de Sibéria ou autre. Donc voilà, pour conclure du coup sur cette partie-là, le festival, le Beer and Food Attraction était d'ailleurs très méconnu des Français, parce que ni moi ni Daniel n'étions au courant que ce festival existait, ce salon existait. Pour avoir discuté avec des brasseries, très peu le connaissaient, ou en tout cas on avait entendu parler vaguement. Et quand je me suis mis à envoyer des photos sur le groupe WhatsApp avec les collègues des autres brasseries, ils voyaient le truc, ils disaient « Attends, c'est exceptionnel, il faut qu'on vienne. » Est-ce que demain, il y aurait une délégation de brasseries françaises ? J'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est hyper intéressant parce que l'Italie, c'est juste à côté de chez nous. Et ce salon est gigantesque. Et l'équivalence que je connais comme ça, c'est le Braubevial de Nuremberg, qui est un salon professionnel également, avec une partie grand public. Et en France, ça n'existe pas, à part le Festival Pro de Nancy, qui est beaucoup, beaucoup plus petit, en l'occurrence.
Est-ce que tu sais depuis combien de temps il existe, ce festival ?
Non, ça fait quelques années, effectivement, mais la date exacte, je ne saurais pas te dire.
Ok.
Mais ça fait quelques années. Cette année a été
la piège de la nouvelle rubrique de l'émission.
Je ne connais pas, je la trouverai peut-être pendant qu'on continue. Mais ils ont battu le record de fréquentation cette année. Ils ont dit, je crois, ils ont eu 50 000 personnes. Donc 50 personnes. Et je tiens à souligner que le fait que ça soit à volonté, ce qui m'a halluciné, c'est que je m'attendais. Alors déjà, ça ferme tôt, hein, il n'y a pas de nocturne. À 19h et quelques, ça ferme. C'est du dimanche au mardi. Donc y a, le samedi, il n'y a rien. Ce qui est incroyable, c'est que vous n'aviez aucune viande saoule. Et c'est parce que un festival où on le voit nous, à Marseille, on a le salon des vignerons que vous avez tous un salon des vignerons près de chez vous, hein, en général. Vous avez des gens qui sont défoncés. Il y a qu'à voir en ce moment où on enregistre, quel salon de l'agriculture.
J'ai vu quand même pas mal passer de l'eau au-dessus.
Oui, il y a eu pas mal d'eau cette année. Mais voilà, le salon de l'agriculture est quand même un salon qui est, malheureusement a eu une mauvaise réputation ces dernières années d'avoir de très gros débordements avec les gens qui le visitent parce qu'ils vont tous se péter la gueule au stand des brasseries et des distilleries. Et là, je m'attendais personnellement à voir vraiment de la viande saoule et des gens défoncés à 19h. Et c'était absolument pas le cas. Je n'ai vu personne de défoncé, j'ai vu personne se bagarrer, j'ai vu aucunement le service même de sécurité s'affoler, cavaler à un endroit, alors que c'était quand même très très bien organisé. Des toilettes, c'était très bien fait aussi, ça allait rapidement. Alors, chose amusante, c'est que les hommes faisaient plus la queue que les femmes aux toilettes. Pour une fois, ça change, parce que d'habitude, c'est souvent les femmes, malheureusement, qui font plus la queue que nous. Incroyablement bien organisé, immense. Et je remercie du coup s'il y en a qui m'écoutent de cette délégation, toute l'organisation qui m'a invité, puisque c'était hyper intéressant. Et assurément, je reviendrai quoi qu'il arrive l'année prochaine. Oui, mais complètement, complètement, les amis.
Et si on goûtait cette bière ?
Eh bien, oui, goûtons cette bière.
Oui. Du coup, j'ai trouvé sur leur site, ils disent que c'est la 8e édition.
C'est la 8e, ça fait 8 ans.
C'est l'annuel, c'est 8 ans.
Moins le Covid, je sais pas s'ils ont. Voilà, après, je sais pas combien de temps ils ont fermé pour le Covid.
Nous, on compte Covid déduit ou Covid complet. Voilà.
Ouais, c'est clair. Donc, je pense qu'on commence par notre Berliner Weiss de la Rade, puisqu'on prend, on va enchaîner sur une Neipa. Donc, Berliner Weiss de bière de la Rade, comme je le disais, à la framboise. Très légère, 3,5%. Donc. Petite Berliner Weiss. Brice, toi, il te reste encore un peu de bière dans ton verre.
Oh, je vais finir ça de ce pas. Regarde. En direct.
Bon, ça mousse pas mal. En direct. Allez, envoie ton verre, mon ami.
J'envoie mon verre.
Voilà, je vous laisse meubler, toi qui cuisines.
c'est une belle table sur laquelle nous sommes, avec un design sympathique. Genre de vague. Rigolo.
Qu'est-ce que je sur le parmi vous, qui c'est qui a vu Miami Vice le film récemment?
Récemment non.
Je l'ai vu il y a des années.
Je l'ai vu quand il est sorti au ciné. Je l'ai revu sur Canal. Du coup certainement un an après. Et j'avoue que depuis je ne l'ai pas revu.
Alors je dois vous avouer un truc, je ne l'ai même pas vu. Je lève le masque, je vous le dis.
Masque.
Non, j'en avais un souvenir assez sombre. Ça m'a vachement fait penser à Collateral.
D'accord.
Au niveau de tout.
Mais ce qu'il y avait Jamie Foxx,
t'a plu.
J'avais bien aimé.
C'était pas dommage.
C'était pas dommage.
Voilà. Ça
c'était.
On a le droit de fatiguer pendant un podcast, je vous le dis.
Mais sachant qu'aujourd'hui, on enregistre deux podcasts en même temps.
Ou peut-être plus.
Et oui, les amis, donc l'air de rien. On en vient à ma partie toujours, le fameux quiz. Le fameux quiz, donc toujours 20 questions. Et cette fois-ci, je ne me suis pas trompé de sujet, parce qu'au dernier podcast, j'étais parti sur les animaux pour une raison que j'ignore.
Mais tout le monde l'ignore.
Voilà, tout le monde l'ignore. Je suis parti sur les duos célèbres au cinéma et à la télé.
Ouais, Laurel et Hardy.
Un truc tout bête. Donc,
mais vous m'avez dit de dire Hardy.
Donc voilà, 20 questions, comme d'hab, je vous donne un pitch.
Ça, on va la goûter cette bière quand même, non ?
Mais oui, on va la goûter en même temps que je parle. Donc,
Alors,
goûtons.
Goûtons.
C'est un peu décousu aujourd'hui.
Goûtons voir, oui. Goûtons
voir. Non.
Goûtons voir si la bière est bonne.
Voilà.
Oui.
ça sent bien la framboise. Ouais. C'est assez sympa.
Ah oui, clairement.
Tu sens un peu l'acidité.
Il y a de la purée de framboise dedans. Hein.
C'est.
Il y a de la purée de framboise dedans.
Oh.
Je la vois.
C'est goûtu. Elle ça du retour pour faire référence à un épisode de la précédente.
Elle n'est qu'à 3,5%. Hein, donc
3,5%, ouais, elle est.
Ah non, mais par contre, ça a une odeur de framboise, c'est un truc de malade. franchement.
La date est un peu dépassée, hein, je précise. Ah, oui, ça n'a pas bougé.
Un peu beaucoup. Hein.
Mais le goût n'a pas bougé. Oui, on a beaucoup de bière hein, pour les podcasts. Alors, des fois, on se démerde pour les réacheter, mais... Mais c'est une Acid Series qu'avait fait la brasserie de la Rade. Je l'ai eu plusieurs fois au bar, hein, donc je peux vous garantir que la bière n'a pas bougé, c'est le même goût. Après, elles sont bien conservées parce qu'elles sont conservées dans une cave à température correcte.
Fraîche.
Voilà, donc ça reste frais tout le temps. Donc ça,
oui, on
ça
enregistre dans une cave. Hein, donc...
Oui, oui. On est dans la cave, en fait, de
magasin,
Schmitt,
voilà.
D'Eric. Voilà. Bah, je vais commencer, du coup, mon petit quiz. Donc je commence par une première question. Oh, ça va être assez rapide, hein, vous allez rapidement trouver. Un duo de débiles, vraiment débiles.
De Bedemer.
Tout à fait. Facile, hein, 1995 je crois. Ce film, très très bon. Une suite un peu moins bonne, mais voilà. L'un est suicidaire, l'autre père de famille. Les deux forment un tandem de choc qui détruit des immeubles
entiers. L'un fatal.
Ouais. Rick Zemertoff. Qui détruit des immeubles dans le 3 je crois. Le 3, et en fait, ce sont vraiment des immeubles qui détruisent. En fait, la mairie de Los Angeles était en train de détruire des immeubles, pour l'anecdote. Et donc, ils avaient un temps très limité pour tourner les scènes parce qu'ils se disaient, bon, bougez-vous le cul, mettez-vous là, filmez parce qu'on va vraiment faire péter le truc. Donc, c'était vraiment ça, quoi. Ah, les années 90. Un duo de froussards mais courageux qui résout souvent des énigmes.
Scooby-Doo
et Sammy.
Et Sammy, exactement.
Sammy.
excusez-moi. Ils ont une Ford Torino et un pote à eux. Voilà. Et un pote à eux qui a le prénom d'une marque de couche culotte.
Et qui est plombier.
Bah, Huggies. Hein. un duo ami-ennemi qui ne cesse de se faire des pranks au bureau au lieu de bosser.
Dwight et Jim.
Et Jim, ouais. Référence à notre dernier épisode. Exactement. Il y en a un qui est un duo de cousins qui aiment faire des sauts avec leur voiture.
Chef et Mopper. Et non
ouais,
pas.
Sheriff et Moteur. Beau et Luke Duke, du coup. Référence aussi à un de nos épisodes précédents.
Tout à fait.
Dernier épisode, d'ailleurs.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast si vous l'avez raté.
Avant-dernier épisode, je crois.
C'était avant.
Avant-avant-dernier.
Avant.
C'est ça.
C'était avant.
Il y en a un qui est toujours très classe. Il a le prénom d'une danse. Et l'autre,
Tango
il a
cash.
Le prénom de quelqu'un qui paye avec des espèces. Tango et Cash. Très, très bon film. Débile, hein, mais ce film, il me fait toujours
confession, je ne l'ai pas vu.
Mais tu devrais.
Tu devrais.
Ils sont jumeaux, mais pas trop.
Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger et De Vito.
Voilà. Je crois qu'il y a une suite qui s'appelle Triplé où c'est Eddie Murphy qui joue le troisième frère.
Il me semble que c'est
un peu ça. C'est, ça me il me semble, mais c'est toujours dans les cartons. Je sais pas
après, il y a Triplette, mais c'est à Marseille quand tu joues au bout.
Et ils arpentent l'espace à bord de leur vaisseau, mais il y en a un des deux qui bouge souvent le siphon de la douche avec ses poils.
Yann Solo.
Oui, exactement.
Voilà.
Les deux colocs les plus marrants des années 90.
Les deux colocs.
Joey Chandler.
Ouais, Joey Chandler. Guy malheureusement a fait une mauvaise actu ces derniers temps puisqu'il est décédé Chandler. Ils sont frères.
C'est son interprète qui est décédé.
C'est vrai.
Mathieu n'est pas mort. Il reste dans nos cœurs.
Chandler est immortel.
Ils sont frères. Ils vivent dans le luxe, mais même si la Terre est ronde, oui. Ils ne se ressemblent pas.
Different strokes.
Ils sont gaulois, mais au lieu de démonter Astérix le salon de l'agriculture, ils font chier César et ses troupes. Et oui, Astérix Obélix. Qu'on a eu dans un épisode avec la potion magique de 90 BPM.
Ouais.
Tout à fait.
Deux frères artisans qui passent leur temps à buter des champignons et des tortues au lieu de bosser sur ma chasse d'eau.
Mario et Luigi.
Exactement. Notre deuxième épisode, je crois.
Oui, deuxième épisode. Oui, ouais.
Avec une bière de chez Garage Brewing. Je me souviens. L'un est un blagueur invétéré, peureux, qui baisse du dragon. Et l'autre, il est introverti, grognon et il n'aime pas du tout la compagnie.
Ah, Shrek et Lan.
Ouais. Shrek et Lan en déroute encore vers l'aventure. Deux amis, un est médecin et l'autre a sans doute un léger syndrome d'Asperger qui fait bien les affaires de la police londonienne.
Sherlock et Watson.
Ouais, exactement, très connu forcément. Deux débiles de la banlieue de Chicago qui ont une émission câblée privée où ils parlent de babes Rain's et de rock'n'roll. Ouais, Wayne et Garth. Un jour on aura un épisode sur ça, j'ai vu des bières avec Wayne et Garth.
Ok. Oh. Ah, ouais.
Un jour, on
trouvera. J'ai écrit un article dessus. Il y a un article dessus sur les arts narratifs.
Il y a un article sur les arts narratifs. Je ne sais plus si c'était toi ou moi, mais on a fait un article.
Voilà.
Un marche, l'autre est à cheval. Ils se lavent au Chanel numéro 5 et ils n'aiment pas trop les postiers noirs.
Visiteur.
Godefroy de Montmirail et Jacouille la Fripouille. Très facile, un duo de souris très ambitieuse.
Minutier Cortex.
Et oui, et oui.
Speak in the brain.
Cortex,
et eux aussi, ils sont Cortex. Flics à Miami, mais pas de la même couleur. Ah.
Mais pas de la même couleur.
Pas de la même couleur que Croquette et Tub.
Et ils sont flics aussi.
Oui.
Rush Hour.
Non. Non, ça se passe à Miami aussi.
Alors là.
Marcus et Mike, ça vous parle? Bad Boys.
Ah putain, oui.
Et oui. Et le dernier.
Bah, sachant que Tubbs, je crois qu'il est.
Oui, Tubbs, il est marron du moins.
Ça va être coupé au montage.
Il est marron. Oui, bon. Il est de couleur, Brisson.
Oui, il est marron quoi.
L'un est un tigre farceur et l'autre un petit garçon qui il semble un peu trop intelligent sur le monde.
Calvin Hobbes.
Ouais. Calvin Hobbes. On n'a pas fait d'épisode sur Calvin Hobbes, mais on a une, on a reçu, je crois, parmi la palette que j'ai commandée à 90 BPM, une Hop Water de la Calvin and Hobbes, justement. Donc ce serait peut-être l'occasion, effectivement, d'en faire une émission. Ben voilà, c'est la fin de ce quiz.
On va pouvoir bientôt goûter la deuxième bière.
On va pouvoir goûter la deuxième bière. En attendant, Eric, est-ce que tu as une recommandation à nous faire?
Il me semble que j'ai bien bossé pour une fois, que j'ai préparé Marocco. Et ouais, on dirait pas comme ça. Il y en a qui bossent des fois. Donc, Marocco, c'est pour une fois un manga. Ça fait longtemps. Oh. Hein.
Toi qui es très comics.
Je suis très comics. J'ai lu...
Et très comique aussi.
Mais ça, c'est suivant la police, suivant le syndicat, tout le monde n'est pas d'accord. Season Life. C'est un manga dessiné par Kaji Kawaguchi et scénarisé par Nobuyuki Fukumoto. Sorti au Japon en 2000 et ressorti en 2023 en France chez Panini Manga en deux gros tomes. Donc si vous voulez connaître le pitch, c'est simple, c'est pas un gâteau emballé dans du plastique. Le pitch de ce manga, c'est Takeda qui n'a plus que 6 mois à vivre. Il décide de se suicider. Bonne ambiance, les gars.
Génial.
Là, on est parfait pour un podcast sur la bière. Mais au moment où il s'apprête à se pendre, le téléphone sonne. Et non, ce n'est pas quelqu'un qui vient te démarcher pour ton CPF.
Ou la gaffe qui t'appelle pour l'or à l'appel.
Voilà.
Oh.
La référence de vieux, quoi. Non, c'est la police qui a retrouvé le corps de sa fille unique, disparue il y a plus de 14 ans. Donc, il reste plus que 6 mois
ça, c'est ballot.
À Takeda pour retrouver et faire condamner l'assassin de sa fille, et même un peu moins, parce que la date de prescription pour ce crime est encore plus proche. Franchement, c'est un thriller en deux volumes. Excellent. Bien foutu, intelligent, mais rapide. Ça n'embourbe pas dans plein de scènes trop contemplatives. Quoi. Non, ça va... droit au but, on va dire. Je dis pas ça parce qu'on est à Marseille. Et ça, le père enquête, il a des pistes, des fausses pistes, etc. Et au final, on va vers une résolution de l'enquête.
C'est vrai que les pères font souvent des quêtes à l'église.
Pardon. Ouais. Et toi, Brice, est-ce que tu as quelque chose à nous dire?
Moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis allé voir Bob Marley au cinéma. Du coup, je vais vous recommander ça.
Il est vivant.
Il est vivant, oui, il a fait un concert.
Quoi ? Bob Marley est mort.
Référence.
Non, je l'ai vu au cinéma, il est vivant. Ne déconnez pas, merde. Du coup, ouais, le film est franchement bien joué. Ça s'attarde sur la partie où il était en exil, entre guillemets, à Londres. Du coup, c'est très sympa, en fait. Tu vois un petit peu la vie au quotidien. C'est comme une grande famille avec tous ces musiciens autour de lui. Ouh, celle-là, elle sent.
Vous l'avez senti, ça sent le houblon. On vient d'ouvrir la Hobbs in the City en même temps.
Et franchement, il dure pas très longtemps. Ça se regarde plaisamment et c'est assez intéressant. Du coup, j'ai découvert les paroles des chansons que j'avais jamais vraiment écoutées. Et donc, c'est hyper religieux. Et voilà. Donc, du coup, allez le voir.
Moi, je suis fan de Springsteen. Je suis athée et c'est très religieux, Springsteen aussi.
Mais en fait, là, c'est le message des Rastafari, en fait. Hein. Donc, toutes les chansons sont. Très grande majorité des chansons sont portées là-dessus. Le message de Ja, tout ça. Mais j'avais jamais fait gaffe. Et c'est quand même très sympa à regarder.
Très bien. J'ai ouvert entre temps, Brice, toi tu n'as pas fini, mais je te laisse finir tranquillou. La Hop in the City, donc on est sur. Alors, on est sur une
bière.
Une bière.
Hé, hey, j'ai gagné.
On est sur donc, une NEIPA à 6,8.
Alors, c'est à peu près le double de la précédente.
Oui. C'est impressionnant parce que l'odeur. Vous avez littéralement l'impression.
C'est Hublot in the City. Hein. Ah c'est vraiment. Ouais. C'est bien.
En fait, vous avez l'impression de prendre, quand vous brassez, vous prenez une poignée de houblon, quand vous la mettez dans votre fermenteur.
Ça sent ça.
Enfin, non. Ça sent ça. Ça sent le houblon frais, en fait. C'est incroyable. Ah, vous avez une dominance de houblon qui est ouf. C'est.
Ah ouais, mais grave.
Est-ce qu'on a, non, est-ce qu'on a la compo des houblons? Parce que c'est pas très
du
très
houblon. Grand. Du houblon. Et du houblon.
Non, ils ont pas mis les houblons utilisés. En tout cas, l'étiquette est très cool. On reconnaît forcément très bien le
très
le
coloré.
Design. Très, très coloré, effectivement. Donc, la 6-8, on va la goûter hein, en même temps. Après, je vous donnerai ma reco.
Il y a même une Ferrari blanche dessus.
Et ouais, ils sont allés loin. Hein.
C'est clair.
Oh, c'est bien fait. Oh, c'est très bien fait. C'est très sur l'arôme... du houblon, c'est plus doux que l'odeur le laisse présager.
Ah,
parce que tu as l'houblon qui est tellement dominant, tu t'attends limite à un hop burn, tu vois.
Ok.
Mais pas du tout. C'est très doux, c'est très aromatique, c'est hyper facile à boire. Franchement, si mon ami Théo en a encore, j'en reprendrai carrément parce que c'est vraiment.
Et pour une fois,
très
nous buvons
bon.
Là une bière qui n'est pas périmée.
Oh.
Et oui, parce que ça fait partie d'une de mes dernières commandes que j'ai prises, je crois, juste avant les fêtes, auprès de Théo.
La bête de la victoire.
Bah moi, j'ai pas trop eu le temps, malheureusement, ces derniers temps, entre les deux derniers épisodes qu'on a enregistrés, parce qu'il s'est écoulé peu de temps finalement. J'ai pas trop eu le temps d'aller au ciné, de regarder des séries. J'ai plutôt revu des séries vite fait pendant que je bossais. Mais il y a une chaîne que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. C'est du nom de son auteur, hein, Guillaume Cassard. Qui fait des critiques de pas des critiques de films vraiment mais qui fait des reviews de films avec pas mal d'anecdotes, c'est assez bien détaillé, un petit peu comme la chaîne YouTube Méa qui va beaucoup plus loin mais qui est plus dans un côté nostalgique avec Disney par exemple. Là on est sur un gars que j'aime bien, il a une bonne dynamique dans sa manière de faire, il connaît bien son sujet, il fait des très bonnes analyses avec des anecdotes un peu fun. C'est des vidéos qui durent à peu près 20 minutes, donc on n'est pas dans un truc qui dure trop longtemps avec beaucoup de blabla. Il va très rapidement au but, c'est ce que j'aime bien. La dernière vidéo qu'il a faite était sur les dernières vidéos qu'il a faites justement étaient sur les Gremlins.
Ouais.
Que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une petite reco toute bête, mais toute simple que j'aime beaucoup. Voilà, il y a d'autres chaînes aussi hein, que j'ai découvert tout récemment. Il y a Popcorn Time, je crois, ça s'appelle. Pareil, un mec qui fait beaucoup de vidéos sur les anecdotes de tournage, c'est très bien fait également.
Ouais, moi, sur les YouTube ciné, je regarde aussi le cinématographeur.
Oui.
Il a sorti un bouquin sur Spielberg que j'ai pas fini de lire.
Il y a Monsieur Bobine qui est pas mal.
Monsieur
aussi.
Bobine aussi.
Très très bon.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je regarde sur. Je me souviens plus. Bon, après, je regarde des trucs de news, enfin de critiques
au
quotidien comme Écran Large ou quoi. Mais...
Il y a eu le faux sourire de film que je regardais à une époque, mais très. Maintenant, ça fait un peu branlette intellectuelle, je trouve. Le mec, il
est passé à autre chose, c'est tout.
Ouais, mais il sort beaucoup de grands mots, tout ça, bon, pour décrire un truc tout simple des fois. Il y a le fameux Durendal aussi, pour ceux qui aiment.
Moi, je
regarde
pas Durendal. Durendal, j'ai pas trop accroché.
Je regarde peu.
J'ai rien contre lui, mais. J'ai...
Ouais, moi, je suis pas.
Pour lui non plus, quoi.
Je suis pas fan, je le trouve parfois trop clivant. Mais pas. Après, c'est pas dégueu à regarder, hein. Il fait des trucs bien, hein, mais. Notamment sa série Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sont très bien faites.
Ouais.
Les séries qu'il fait sont très bonnes. Les critiques ciné, par contre, bon, des fois, c'est un peu too much, je trouve. Notamment depuis qu'il a dit que Lucie de Luc Besson était un chef-d'œuvre et était une équivalence à 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Là, tu as envie de dire, mec, c'est bon, il t'a payé, non. Luc Besson, c'est pas possible, parce qu'il était à fond sur le fait qu'il y ait deux sangliers qui s'enculent à un moment donné dans une scène en routant.
Au début.
Un truc au début. Ouais, faut pas chercher. Enfin, les gens qui me connaissent savent que je n'aime pas trop Luc Besson. Je dis pas qu'il fait des mauvais films.
Les gens qui ont du goût n'aiment pas Luc Besson.
Mais bien sûr, Le Grand Bleu, c'était sympa. Oui, Le Cinquième Élément est un bon divertissement.
Léon.
Mais Léon est un très bon film, Nikita aussi. Mais après ça, c'est toujours pareil. Les Taxis, le 1, était très bien. Après, c'était de la merde.
Ça coûtait cher.
Ils ont coûté cher. Et puis attends, les films qu'ils produisent du coup sont souvent de la merde aussi. C'est toujours les mêmes trucs. J'ai souvenir de ce jour funeste où je suis allé au ciné voir un film qui s'appelle Deux jours à tirer, deux heures à tirer, je sais plus, avec Kevin Costner. Et je fais pas gaffe. Je vois la bande-annonce, ça a l'air. Bon allez, ça a pas l'air mal. Moi, tu sais, à l'époque, je travaillais du côté de Marignane, auprès de l'aéroport de Marseille, qui est situé en dehors de la ville. Et donc, dès qu'à Marseille, il y a un match de foot, forcément, la ville est bloquée puisque le stade est en plein centre-ville. Ce qui est pratique.
Comme ce soir.
Voilà, comme ce soir. Ce qui est pratique en soi, quelque part, puisque le prochain festival, on pourrait le faire du coup à côté du stade. Donc, c'est très central, c'est bien. Mais quand vous rentrez chez vous, c'est très compliqué. Le problème étant que je vois la balance, je dis, oh, ça a l'air cool, tout ça, allez, j'y vais. Parce qu'il y avait un match ce soir-là, je dis, bon, ben, au moins, je me fais un film à 18h. À 20h30, tout le monde est au stade. Moi, je rentre chez moi tranquille. Et au moment où je suis dans la salle et je reconnais la société de production, je vois Europacor, je fais « Oh la putain, je vais me faire chier ». Eh bien, c'était de la merde. Il y a un fil rouge avec un putain de vélo qu'il doit offrir à sa fille. À chaque plan, tu entends la sonnette du vélo. Mais le personne n'actionne la sonnette du vélo, tu entends « cling, cling ». Je dis « Mais putain, mais c'est un truc de gamin de 12 ans, ça, ce montage sonore ». Donc c'est de la merde. Et là, récemment, il a fait un film avec un gars qui est déguisé en clown, qui est élevé par des
Dogman. C'est le film de Luc Besson, ça c'est voilà. Réalisé par Luc Besson.
Mais en fait, quand tu regardes le truc, c'est toujours pareil. Luc Besson, c'est le mec qui va se foutre de la gueule des flics et les faire passer pour les plus gros teubés de la Terre. Alors certes, il y a quand même des 7 sur 20 parmi eux, mais faut pas déconner, ils sont pas tous comme ça non plus. Donc, mais lui, il a une proportion à toujours les faire passer pour les plus gros imbéciles de la Terre. Et à chaque fois, il te fait le même principe, c'est toujours le personnage, alors souvent une femme, là il a changé un peu, qui va tuer tout le monde pour se venger, ou je ne sais quoi. C'est toujours pareil en fait.
Je suis en train de regarder les productions faites par Europacorp.
Ah merde.
J'en ai, pour l'instant, j'ai fait toutes les années 2000.
Ouais.
J'en ai trouvé une qui me plaisait pas mal, Dick et Neck. Marrant.
Putain, c'était produit par Europacorp, sans déconner.
Ah, okay. Ben,
voilà. Il y en a un autre que je n'ai pas vu, mais j'ai pas entendu trop de mal, c'est Danny the Dog.
J'avais bien aimé. Voilà. C'est ultra violent, c'est pour ça que j'avais bien aimé.
C'est les deux que je peux vous dire sur 10 ans. Les années 2010, je suis en train de chercher.
Je crois que c'est à 2010, ça commence à partir.
Oh, Valéria et Laureline, j'avais bien aimé.
Oui, c'est...
Après, ah, c'était un mix de plusieurs albums, mais...
Année 2010, t'as quand même les petits mouchoirs. Faut aimer le genre, mais
ouais.
C'était pas mal foutu. Un monstre à Paris, le dessin animé avec M et Vanessa Paradis.
La scène.
Je pense que là où en fait j'aime pas Luc Besson, c'est quand il essaie de faire des films d'action. Ouais. C'est
par contre,
ça. En fait.
Ah, je me souviendrai toujours en 2012 de Lockout.
On l'avait vu ensemble.
Oui, c'est pour ça que c'est ça.
Mon Dieu. Et en fait, Luc Besson, dès qu'il touche au genre action, à part Cinquième élément, on va dire que j'ai trouvé quand même sympa. Et le premier taxi qui avait un peu un petit vent de fraîcheur. Le
reste, c'était local pour nous, c'était marrant.
C'était local pour nous. En fait, derrière.
Tekken,
pareil. On va pas se mentir, c'est de la merde, Tekken.
Transporteur, quoi. Oh, mon Dieu.
Le transporteur aussi, c'est pourri. Ah oui, bon, il y a François Barléan dans les Calanques. Ça nous fait plaisir à nous, les Marseillais, quoi. Le transporteur qui se passe à Marseille, où il se bat au dépôt de la Rose ou de la Capelette, je sais plus où, tout huilé entre les bus de la RTM. Oui, c'est rigolo quand t'es local, parce que il faut l'avouer, il aime bien Marseille, et nous, ça nous fait plaisir en soi. Mais
on l'aime bien au village.
Mais il est un peu brave quand même, Besson, des fois. Hein. Mais bref, écoute, voilà. Mais moi, c'est mon fil rouge, voilà, Besson. Voilà. Je n'aime pas le travail de Besson de ces dernières années.
C'était Tubbs. Tu vois, c'était chacun son fil rouge.
Voilà. Voilà. Bah, écoutez, les amis, sur ces bonnes paroles, je crois qu'on a fait le tour de nos critiques, on a fait le tour de Miami Vice, on a fait le tour de Tubbs. De table. J'ai le moment d'enclencher le générique, les amis.
Et vous pouvez nous retrouver quand même sur les réseaux sociaux. Les nôtres, c'est-à-dire ceux de The Beer Lantern des Arts Narratifs et Grand Tozo. Et ceux, évidemment, du podcast Les Bières Narratives. Alors, ces fois, c'est Les Bières Narratives, voilà. Des fois, c'est Bières Narratives sans un E. Sans
voilà.
Un... Ça dépend de la longueur de caractère et à quoi on a pensé ce jour-là. Donc,
voilà.
Suivez-nous.
Ça vous fait un peu de recherche. C'est rigolo.
Voilà.
Google est votre ami, comme dirait-on.
Voilà. Le site n'est pas encore aussi. Bien à jour. Les podcasts sont disponibles sur le site, par contre, mais les articles ne sont pas encore à jour. Il faut que je m'y mette rapidement. Comme tu dis, nous, sur les réseaux sociaux, donc Les Bières Narratives, on est sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Toi, Eric, on te retrouve aussi sur Facebook, Instagram, Twitter.
Blue Sky, Mastodon.
Et Mastodon. Et moi, vous pouvez me trouver également, donc pareil, sur Instagram, LinkedIn, Facebook, Instagram. J'ai même un compte TikTok, un compte Blue Sky, un compte Mastodon, des threads maintenant. Voilà.
Et des fois, vous pouvez me voir commenter sur YouTube. Hein. Voilà. J'ai un compte YouTube, mais où je
aussi,
poste pas vidéo,
j'ai un compte YouTube aussi. Voilà. Bref, on est un peu partout. Brice aussi, au nom
on
de
Grand Tosor
et
Plexo.
Ouais, surtout à Marseille.
Voilà, surtout à Marseille, entre le Kagenkan et le Bière Academy, si vous voulez trinquer avec nous.
Puis parfois, on est. En Italie, en République tchèque, en Pologne. Tchèque,
voilà. Des fois on bouge.
En Portugal, on se balade.
Exactement. Donc voilà, on vous dit rendez-vous au prochain épisode où on va sans doute un petit peu planer, je pense.
Ouais, on va s'envoyer en l'air.
Allez, à très vite. Salut.
Oh yeah.
C'était très mauvais, voilà, exactement. Alors reprenons.